Bonjour Guillaume.
Bonjour Laetitia, l'écologie c'est votre préoccupation. D'ailleurs, vous avez un chemisier vert.
Ça s'appelle un petit pull, mais c'est pas grave. Oui, la mode.
Écoutez, j'ai du mal à voir ça tellement vous êtes loin.
Vous êtes daltonien.
Et vous êtes vraiment intéressé par l'écologie, mais voilà, si vous êtes comme l'ensemble des Français aujourd'hui, on a l'impression que l'écologie est surtout un discours, surtout un mot, et qu'elle a beaucoup de mal à se transformer en politique concrète. L'aurait-on oublié, par exemple? Avec la crise, on en parle ce matin avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Et hier, il m'est arrivé une histoire incroyable au parc. J'ai eu une conversation avec appelons-la Sophie. J'ai félicité Sophie pour ses chaussures et elle m'a dit quelque chose comme « Oui, effectivement, j'ai de belles chaussures, mais ma sœur, elle a des Dior. » Et ta sœur, elle a des Dior. Alors, pour vous permettre d'apprécier pleinement cette histoire, je tiens à vous dire, j'étais au parc en compagnie de Tadzio, mon fils âgé de 4 ans, Sophie. Et dans la classe de mon fils, elle est en moyenne section et elle doit avoir, mettons, 4 ans, tandis que sa sœur est en CE1 et qu'elle doit bien être âgée de, disons, 7 ans. Alors certes, j'habite un quartier peuplé essentiellement de dingues où l'on doit pouvoir acheter des Dior à une petite fille de 7 ans, c'est vrai, mais on peut aujourd'hui aussi fabriquer des enfants de 4 ans frustrés de ne pas avoir des Dior. C'est cela l'enseignement. En d'autres termes, la totalité de notre société est aujourd'hui exposable, voire exposée à des marques. Le mensonge du luxe fait que l'on est prêt à payer 100 euros un t-shirt avec inscrit dessus « J'adore Dior », tandis que l'on refuserait d'être payé 100 euros pour porter un t-shirt avec marqué dessus « Bricorama ». Cette escroquerie du luxe est aujourd'hui générale dans la société, non plus seulement de 7 à 77 ans, mais même avant 7 ans. C'est grâce à cela que l'on peut voir que le système marchand a de beaux jours devant lui, que la décroissance, la consommation frugale, toutes ces choses-là ont encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir des comportements majoritaires. En attendant, le fétichisme des marques ne cesse de gagner du terrain, y compris chez les mômes. En 1968, les jeunes criaient « Marque ou crève ». Bientôt, ils défileront en criant « Marque ou crève ».
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Écologie, pourquoi tant d'indifférence?
Bonjour, des études le prouvent, les écologistes sont contre. Contre quoi? Contre tout. Je vais enfin vous révéler la vérité, l'écologie a été inventée rien que pour vous embêter. C'était un soir, avec des potes, on s'ennuyait, alors on a inventé ça. Nous, on voulait que tout le monde devienne écolo pour nous acheter nos fromages bio, nos sandalettes et nos bonnets péruviens. En réalité, la planète n'est pas du tout en danger, ni l'environnement d'ailleurs.
Et on parle d'écologie ce matin en partenariat avec le quotidien La Croix. Bonjour. Guillaume Goubert, vous êtes directeur du quotidien La Croix. Vous venez nous présenter un dossier que vous avez consacré aux catholiques et à leur lien avec l'écologie politique. On va voir que c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. À côté de vous se trouve Jean de Kervas-Douai. Bonjour.
Bonjour.
Jean de Kervas-Douai, vous êtes professeur émérite au CNAM et vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Ils ont perdu la raison » où vous abordez un certain nombre de thèmes tels que le diesel, le nucléaire, les pesticides, les OGM, et vous expliquez que le point de vue dominant, celui que vous nommez comme dominant, qui est, disons, une méfiance à l'égard des OGM, du diesel, du nucléaire, des pesticides, est un point de vue qui n'est pas rationnel, qui n'est pas scientifique. Et puis en face de vous, Benoît Hartmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de France Nature Environnement, une fédération qui regroupe 3000 associations en France et en Outre-mer. Benoît Hartmann, comment jugez-vous l'évolution de l'écologie aujourd'hui en France?
Écoutez, on a le sentiment que il y a une forme de désintérêt de l'écologie, et quand on observe un petit peu dans les sondages, on voit qu'il y a une intense corrélation entre effectivement le ressenti de la crise et l'intérêt pour l'écologie, comme si l'écologie était une sorte de variable d'ajustement. Quand vous devez assurer votre survie et lutter contre votre propre chômage, l'écologie serait le cadet de vos soucis. En fait, c'est probablement lié au fait que nous, associations, en grande partie, n'avons pas réussi à faire la démonstration du fait que ces crises sont intimement liées. La crise écologique est un autre aspect de la crise sociale et de la crise économique que nous traversons. C'est une crise de la ressource, c'est une crise de notre relation à la consommation, vous l'évoquiez en préambule, c'est une crise qui est en grande partie fondée par le travail très bien fait d'un certain nombre de publicitaires et de lobbies qui nous incitent à acheter tant et plus, à renouveler votre téléphone tous les 6 mois alors qu'il fonctionne encore, à avoir des logiciels qui font que votre ordinateur ne fonctionne plus quelques temps après, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, tout ce système-là qui va inciter à ce que nous consommions, dépensions notre argent accessoirement à des choses qui ne sont pas indispensables, sinon indispensables à un dogme d'une croissance continue à partir de ressources discontinues. Donc oui, on a l'impression que l'écologie dans l'opinion publique est en perte de prise, en partie grâce à cette à cause de cette déconnexion entre ces trois crises qu'on n'arrive pas à bien prouver. Mais par ailleurs aussi, sans doute que l'écologie connaît une crise parce qu'en face, des lobbies ont des moyens que nous n'avons pas pour promouvoir leur valeur, leur vertu, que sais-je, vive les gaz de schiste, vive le diesel, et après tout, moi je gagne de l'argent comme ça, pourquoi je continuerai pas quant au fait que ça coûte à notre santé? Écoutez, ça c'est la sécu qui paye, hein, c'est pas les boîtes.
Jean de Kervas-Doué, êtes-vous d'accord avec le discours de Benoît Hartmann? Il considère donc que la crise de l'écologie, c'est aussi une crise du capitalisme. D'autres pensent que la crise du capitalisme, on pourrait la combattre par exemple en exploitant les gaz de schiste. Où vous situez-vous par rapport à ces différents points de vue?
Nulle part.
Nulle part.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusion et dans ce qui est dit et dans vos questions. Donc je vous rejoindrai tous les deux sur la folie des marques et effectivement une forme de capitalisme tout à fait condamnable et que je connais bien dans le domaine de la santé avec le rôle à la fois extraordinaire de l'industrie pharmaceutique, mais aussi quelquefois et souvent son côté corrupteur. Donc on ne peut pas dissocier malheureusement l'un de l'autre. En revanche, je suis en désaccord avec ce que vous avez dit, qui est aussi
Benoît
vieux
Hartmann.
Qui est aussi vieux que Malthus, c'est-à-dire que les Malthusiens depuis 2 siècles nous font penser que nous ne serions pas capables de nourrir les 9 milliards d'hommes qui viennent d'arriver. Il se trouve que moi, j'ai dirigé le centre de prospective du ministère de l'Agriculture il y a longtemps, puisque c'était en 1980.
Il a pas dit ça.
Si, il a dit croissance continue. Il a dit qu'on ne pourrait pas, avec des ressources discontinues, assurer la croissance continue. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai compris toujours. Je suis peut-être trompé. Mais... je peux vous dire que, par exemple, pour l'eau, on ne manquera jamais d'eau.
Celle-ci devient intégralement polluée, par exemple.
Mais c'est pas vrai, elle n'a jamais été aussi propre. Jamais été aussi propre. En France, si vous voulez, nous rejetons à la mer 171 milliards de mètres cubes. Nous n'évaporons avec l'agriculture et les centrales thermiques que 4 milliards de mètres cubes. Oui, c'est bien ça. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, on peut nourrir rien que les États-Unis à 35 ans, pouvaient nourrir 4 milliards d'hommes.
On va continuer à parler d'eau, on va continuer même à entendre chanter l'eau Océan M, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Silence.
Service public sur France Inter, il est question de l'écologie. L'écologie est-elle encore un souci? Est-ce surtout un souci dans les discours? Quelque chose dont on parle, mais finalement qui donne lieu à peu de décisions concrètes? On en parle en compagnie de Benoît Hartmann, qui est porte-parole de France Nature Environnement, de Jean de Kervas-Douai, professeur émérite au CNAM, qui a notamment publié « Ils ont perdu la raison », où il considère que l'écologie est devenue aujourd'hui trop importante dans les esprits de nos contemporains. Et puis enfin, Guillaume Goubert, qui est directeur du quotidien La Croix, puisque La Croix est notre partenaire pour cette émission. Guillaume Goubert, vous avez consacré une étude consacrée aux catholiques et l'écologie politique. Alors, a priori, ce lien pourrait surprendre. On pourrait se demander pourquoi il y a quelque chose de spécifique lorsqu'on est catholique avec l'écologie politique. Expliquez-nous pourquoi ce lien est effectivement un lien pertinent. Qu'est-ce qui fait que les catholiques n'ont pas forcément le même regard sur l'écologie politique ?
Alors d'abord, expliquer qu'il s'agit d'une enquête qui dure sur 2 semaines et on entre là dans la 2e semaine. Elle est motivée par le fait que le 18 juin, le pape François va publier une encyclique, c'est-à-dire un grand texte doctrinal, qui va un petit peu... Ce sera le premier texte dans l'histoire de la doctrine catholique qui sera consacré à l'écologie. Et ça s'appellera « Loué sois-tu », ce qui fait référence à « Cantique des créatures » de saint François d'Assise. Effectivement, quand on s'est penché sur ce sujet, on s'est rendu compte que le rapport des catholiques, des chrétiens d'ailleurs, à l'écologie n'était pas très naturel, n'était pas très simple. Je ne pense pas qu'il soit tellement différent de l'ensemble de la société. Au demeurant, je pense que les catholiques, comme tous les citoyens, sont conscients d'un certain nombre de dangers. Mais ils sont un peu comme saint Augustin dans une célèbre prière qui disait « Seigneur, rends-moi chaste, mais pas tout de suite ». C'est-à-dire qu'on espère continuer à profiter un petit peu de notre confort, de la consommation dont on parlait tout à l'heure, etc. Et on se dit « Allez, encore un moment ». Quoi. On sait qu'il va falloir sans doute changer un certain nombre de choses dans nos modes de vie, mais on n'est pas très pressé de le faire, parce que c'est pas évident de passer à la frugalité, il faut bien le dire. Je crois qu'une des choses qui fonde la difficulté de la relation des catholiques et des chrétiens avec l'écologie, ça vient de la Bible, au premier chapitre de la Genèse, le début de ce grand livre. Dieu dit à l'homme et à la femme, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Voilà, les chrétiens ont tendance à prendre ça un petit peu au pied de la lettre. Voilà, c'est-à-dire un des facteurs d'explication.
L'une des manières d'être chrétien, d'après le texte que vous venez de citer, c'est tout simplement d'être productiviste, de considérer que la productivité est bonne. Et donc, Jean de Kervas-Douai est très chrétien.
Non, mais effectivement, moi, dans mes contacts, par exemple, mais juste un petit mot pour dire, dans mes contacts avec le monde agricole, où il y a beaucoup de militants catholiques, j'ai toujours été frappé de leur investissement pour dire, nous nourrissons l'humanité, pourquoi venez-vous nous critiquer alors que nous consacrons à nourrir l'humanité?
Jean de Kervas-Douai, est-ce que pour vous, il faut effectivement être chrétien de ce point de vue-là, et par exemple, utiliser toutes les techniques qui sont aujourd'hui disponibles pour permettre à un agriculteur de nourrir un grand nombre d'hommes. Je pense par exemple aux OGM et aux différentes techniques qui accompagnent l'utilisation des OGM.
Et aux agrocarburants. Alors, bon, l'écologie est importante, je crois qu'elle est importante pour nous tous, et on est tous sensibles à la préservation des milieux, sachant que d'ailleurs en France, depuis au moins 2000 ans, il n'y a plus de milieu naturel. C'est-à-dire que l'homme est intervenu et il y a eu une interaction en Europe de l'Ouest depuis très très longtemps entre les hommes et la nature. Mais le sujet de la religion est essentiel. C'est-à-dire que,
les hommes, à la fin du Moyen-Âge, se sont battus pour dire que tout n'était pas religieux. Et un des drames aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de sociétés disent à nouveau « tout est religieux ». Donc, il y a eu l'ordre de la religion, et puis l'ordre de la vérité, et l'ordre du beau. Il y a un texte de Pascal, et il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette séparation des ordres. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne traite pas des questions d'écologie, c'est qu'on en traite mal et qu'on se trompe.
Sur les OGM, je vous ai posé une question.
Alors, sur les OGM, c'est d'une très très grande simplicité. C'est-à-dire que quand vous êtes agronome, vous savez que toute l'agronomie a cherché à faire de la sélection génétique, et on en fait depuis 10 000 ans, et notamment pour le blé et pour les animaux, et que la différence entre les organismes génétiquement modifiés et que la génétique classique, c'est que avec les OGM, on sait exactement ce que l'on fait, alors qu'avant, on fabriquait des mutations au hasard. C'est-à-dire que tous les gens qui nous écoutent, et vous et moi, nous sommes des OGM. C'est-à-dire que quand nous sommes nés, les gamètes de nos parents avaient muté. Il n'y a pas darwinisme s'il n'y a pas d'OGM, s'il n'y a pas de mutation. Donc la différence entre vous et moi et un OGM, c'est que dans un OGM, on connaît le gène qui a muté, alors que pour le reste de la population, on ne sait pas le gène qui a muté. Donc la fabrication d'OGM, d'ailleurs, la messe est dite, si vous voulez, dans ce domaine. Il y a 1 milliard d'hommes qui en mangent, tous les animaux du monde en mangent, et en France, on a tout perdu.
Benoît Hartmann, vous qui représentez ici France Nature Environnement,
sur les OGM, écoutez, moi j'ai la chance de pas avoir de gènes de méduse dans mon patrimoine génétique parce que j'ai pas croisé du règne animal et végétal quand mes parents effectivement m'ont conçu. Il y a eu que deux humains et des gènes d'humains qui se sont mélangés. Oui, nous faisons de la sélection naturelle depuis très longtemps et d'ailleurs la très bonne connaissance de la génétique permet d'améliorer cette sélection naturelle simplement parce que quand on fait muter très naturellement du blé, ben on est capable de tracer le gène qui fait qu'il y a plus de grains sur l'épi. Donc, en fait, on est en train de gentiment tout mélanger. Les écologistes, vous savez, sont à la pointe du progrès, contrairement à un procès qu'on leur fait, une espèce de mythe du retour à la bougie, comme quoi nous serions des espèces de passéistes conservateurs. Bien non, pas du tout. Nous sommes très très curieux de cette science-là. En revanche, nous nous inquiétons quand les seuls OGM qui existent, par exemple, commercialisables en Europe, sont du Monsanto, qui en fait n'a comme qualité que de résister à l'herbicide qu'on peut mettre, le Roundup, et qui détruit tout le reste, sauf cet épi-là. On peut pas dire que là, ça soit un progrès pour l'humanité délirante, d'autant plus qu'on sait très bien faire en sorte d'avoir des champs qui soient productifs sans recourir à ces OGM. Alors quand on a un risque avéré pour l'humain, potentiel même, suffisamment dangereux et qu'on a une alternative, c'est dommage de se passer de cette alternative. Faire des OGM pour faire des médicaments, en milieu clos, à l'abri des risques de contamination, pourquoi pas, mais pour l'instant, malheureusement, les OGM, le modèle dominant, c'est plutôt les grands semenciers qui nous vendent la graine, le produit qui va avec, et qui malheureusement fait que ce gène a sauté dans la marrante. Dorénavant, la marrante doit s'arracher à la main parce qu'on ne peut plus la traiter, et oui, Monsanto n'a pas réussi à l'éliminer avec son Roundup.
Jean est au standard, il nous appelle de Trémel, bonjour Jean.
Oui, bonjour Guillaume.
Nous vous écoutons, Jean.
Alors, vous aviez parlé tout à l'heure qu'on nous embêtait avec l'écologie pour certains. Je voulais donner ma remarque. En fait, il y avait pour moi deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous demande de trier, effectivement, de moins polluer avec le CO2, certes, mais que d'un autre côté, officieusement, on laissait toute la pollution se déverser sur la planète, style, alors, chemtrails, ceux qui connaissent sont les avions qui larguent les métaux lourds comme l'aluminium, le barium, etc., soi-disant, pour lutter contre l'effet de serre. On laisse importer des tourteaux OGM pour nourrir notre bétail. On laisse l'aluminium dans les vaccins. Et en ce moment, il y a le scandale mis à jour par le professeur Joyeux, 500 000 signatures, si vous êtes au courant, justement, à cause de ce scandale. On laisse le lisier être épandu dans les terrains avec émanation d'azote qui est hyper cancérigène. On laisse le Roundup, etc. Donc voilà, je voulais dire que pour moi, il y avait deux poids, deux mesures et que ce n'était pas normal.
Merci Jean pour cette remarque. Alors parmi les fléaux que vous pointez du doigt, certains sont effectivement de vrais fléaux, d'autres leur responsabilité est largement discutée. On n'est pas du tout certain d'avoir affaire à des choses qui peuvent produire des catastrophes écologiques. Jean de Kervas-Doué, qu'en pensez-vous ?
Non, Encore une fois, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie par an depuis, et ça, c'est grâce à la science. C'est pas.
Ça, c'est un discours très général sur les points particuliers.
Non, mais sur les points particuliers, malheureusement, il faudrait à chaque fois les reprendre un à un. Mais juste un mot sur l'aluminium dans les vaccins, qui est un sujet qui est très connu, qui a coûté d'ailleurs sa réélection à Gerald Ford aux États-Unis. On sait que c'est infondé. On sait que c'est pas vrai. On sait avec certitude que c'est pas vrai. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui
Benoît Hartmann.
Les certitudes en science, on a du mal. On fait des analyses statistiques qui disent que il est fort probable que ça soit pas l'aluminium qui faille incriminer. J'ai entendu parler aussi des chemtrails qui seraient
Les chemtrails, il faudrait traduire tout d'abord.
Les traînées d'avions que vous voyez dans le ciel qui sont essentiellement de la condensation de vapeur d'eau.
De la vapeur d'eau, c'est généralement sans danger.
Alors c'est sans danger, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que la vapeur d'eau à une certaine altitude a un effet de serre, avec aussi un effet de renvoyer une partie des infrarouges vers l'atmosphère, vers la haute atmosphère. Donc ils ne sont pas sans effet. Les avions posent tout à fait d'autres problèmes. C'est le transport le plus carboné, celui qui contribue le plus au kilomètre au réchauffement climatique global. Donc ça pose bien d'autres problèmes, mais n'accusons pas trop vite les chemtrails. En revanche, ce que j'entends ici de la part de cet auditeur, c'est qu'effectivement, il y a deux poids, deux mesures, avec un discours ambiant qui est très culpabilisateur, avec vocation à mobiliser, mais culpabilisateur pour le citoyen, dans ses comportements individuels. Ne gaspillez pas, éteignez la lumière, triez, déplacez-vous autrement. Et pas très souvent culpabilisateur ou mobilisateur pour les grandes entreprises qui, elles, sont responsables, effectivement, d'un certain agroalimentaire, un modèle, en fait, où bien souvent, c'est plus simple de culpabiliser le citoyen que l'entreprise qui fait du chantage à la délocalisation ou à l'emploi, simplement.
On écoute Fool's Garden, Lemon Tree, et tout de suite après, on continue à évoquer l'écologie, discours ou réalité.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see
service public sur France Inter. Il est question d'écologie, on s'interroge, pour essayer de comprendre le poids que l'écologie, dont l'écologie dispose aujourd'hui dans nos existences, en compagnie de Benoît Hartmann, qui est porte-parole de France Nature Environnement, de Jean de Kervas-Doué, qui est professeur émérite au CNAM, qui a notamment publié « Ils ont perdu la raison », et de Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix. Guillaume Goubert, vous avez particulièrement étudié dans votre quotidien le rapport que les catholiques entretenaient avec l'écologie. Dans l'écologie, il y a une condamnation parfois quasiment morale, une condamnation morale de tous les traitements que l'homme peut faire subir à la nature, comme s'il faisait des choses contre nature avec la nature. Par exemple, dans les croisements génétiques, dans les OGM, on a l'impression finalement que les malheurs qui surviennent aujourd'hui sont liés au mauvais usage de la nature, comme s'il y avait une vision quasiment théologique de la nature. Ça, c'est chrétien.
Oui, mais à condition de quand même laisser l'homme au centre du dispositif, de ne pas diviniser la nature. Et ça, c'est un petit peu une des difficultés qu'ont les chrétiens avec les écologistes, c'est le fait qu'ils ont le sentiment parfois qu'ils mettent la nature au-dessus de l'humanité. Et donc, ils se mobilisent un petit peu contre ça.
Effectivement, il peut y avoir une mobilisation. Il peut y avoir tout à l'heure, Benoît Hartmann, par exemple, quand vous disiez « je suis le fils d'un homme et d'une femme et pas d'une méduse et que sais-je encore », est-ce que c'est pas finalement un point de vue tout simplement moral sur les choses, une manière de considérer que la nature, c'est ce qui est le plus sacré qui doit déterminer tout le reste ?
Non, pas du tout. C'est pas nouveau, science sans conscience, c'est pas un fait totalement nouveau, c'est quelque chose qu'on pose depuis longtemps, quel est l'usage qu'on fait d'une connaissance, et c'est vraiment la question. Mais cette question-là, c'est pas du tout le champ des associations qui défendent la nature et l'environnement. Moi, je ne m'occupe pas ni de valeurs morales, ni de jugements qui seraient spirituels, absolument pas. C'est une relation à la nature, en fait, une question que nous posons, de nous dire quel est le plus efficace en termes de coût-bénéfice. C'est vraiment très simple. Notre fédération, France Nature Environnement, elle défend la nature pour l'homme. C'est-à-dire que je sais que la nature existait avant que l'homme n'existe, que si d'aventure nous disparaissons, comme beaucoup d'espèces ont disparu, il est probable qu'une nature nous succède. Ça pourrait repartir malheureusement de bactéries au fin fond des océans si on va très loin dans notre capacité à détruire le milieu dont on dépend, mais pour autant, la nature continuera à exister. Mais cette nature-là ne m'intéresse pas, en ce sens que moi, j'en serai pas témoin et je n'y peux rien. Donc oui, nous sommes des défenseurs de la nature pour l'homme, en ceci que cette nature soutient notre modèle de société. Si cette nature n'est plus capable de soutenir nos modèles de société, s'il n'y a plus d'abeilles pour polliniser, si les sols sont plus productifs, si l'eau dont nous dépendons, on est obligé d'aller déplacer les lieux de captage. La ville de Paris en est à son 7e déplacement de lieux de captage. Imaginez ce que ça coûte aux citoyens. Si tous ces services que nous rend la nature ne sont plus rendus, si l'eau n'existe plus sous forme de zone humide, alors malheureusement, mon modèle de société s'effondre. Donc je suis plutôt dans cette vision-là, et qui est plutôt une vision politique et environnementale, et absolument pas une vision morale ou éthique.
On va continuer à voir ce que les citoyens font de l'écologie, notamment les citoyens qui s'engagent concrètement pour elle. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé voir comment ces citoyens s'engageaient au quotidien en faveur de causes écologiques.
Oui, et pour découvrir cette initiative citoyenne, il faut remonter péniblement les pentes de la Croix-Rousse sur les hauteurs de Lyon. On y découvre un immense terrain arboré avec des acacias, des platanes et un potager. Les habitants y font pousser des radis et des laitues sans autorisation. Ils se sont rassemblés en février 2015 pour rendre ce terrain abandonné de 1700 m² accessible aux Lyonnais. Le problème est que son propriétaire, la ville de Lyon, n'est pas d'accord avec cette initiative citoyenne qui est assimilée à un squat. Et la semaine dernière, une quarantaine de CRS est venue pour expulser les poules et a condamné l'accès au jardin avec un double grillage. Je retrouve quelques habitants, Camille, Bruno, François et Louise, bottes de radis bio à la main. Ils cherchent à comprendre les raisons d'une telle opération de force.
Tu vois, aujourd'hui à Lyon, il fait 35 degrés, il fait chaud, et si le jardin avait été ouvert, on aurait pu se mettre sous les arbres, là. C'est pas un jardin comme on pourrait s'imaginer potager en plein cagnard. On a laissé les arbres, donc la nature, on a laissé le travail de la nature depuis 25 ans. Devant nous, donc, on a une première grille pour mobile, hein, ce qu'on appelle une grille mobile, voilà, en fer, qui nous ont donc posé mardi dernier. Et juste derrière, on a donc une ouverture qui a été totalement murée avec ce qu'on voit, donc c'est des parpaings. On ne peut plus ouvrir, quoi. Voilà, donc on avait une sorte de sous-bois naturel en plein centre-ville. On a ouvert le jardin sans autorisation le 28 février donc 2015. Ils se sont très vite rendus compte de la chose, donc les services de la mairie centrale. Ils nous ont collé un arrêté assez rapidement, hein, au bout de 2 semaines, ça y était déjà. Et ils nous ont expulsés une première fois, donc le 17 avril. Voilà, et donc là, ils nous ont expulsés une deuxième fois suite à cette réouverture, donc le 2 juin, un mois après. Une trentaine de CRS, une pelleteuse. Voilà, ils nous ont posé des grillages vraiment très, très solides. Donc là, on avait réussi à créer un jardin de quartier partagé, un lieu de ombragé, parce qu'ici, à Lyon, il fait quand même très chaud. Un grand terrain de liberté et de nature pour zéro sou, ou presque. Et ça n'a rien coûté à la collectivité. Et en plus de ça, on avait des œufs et on faisait pousser des légumes.
Est-ce que vous avez la sensation d'être des militants écolos ?
Il y a cette idée de ce jardin qui est un peu pour mettre les gens devant la nature, c'est-à-dire qu'en se disant, je pense qu'il faut qu'on sorte du mode de consommation actuel. La ville n'a jamais voulu dialoguer sur une éventuelle proposition, que ce soit de bail précaire.
Bonjour monsieur.
J'habite là, moi. J'entends tous les oiseaux, tous les matins. Avant, on avait un écureuil. Ils ont fermé complètement, là. Et pourquoi ? Double grillage, on soit en prison. Je pensais que beau jour vienne, puisse se promener, aller se promener un petit tour là-dedans. On entend les oiseaux. Pourquoi le maire, il a fait ça ?
Donc on a un grillage avec un mur en pierre et donc c'est possible d'escalader pour rentrer dans le jardin.
Tu vois, il y a une ouverture, il faut quand même faut pas avoir trop peur pour escalader, je pense, mais ça se fait. Donc apparemment là, il y a des gens qui sont rentrés par là.
Et on pourrait y aller nous ?
Nous on pourrait y aller, après c'est selon la responsabilité pénale de chacun. Et tu veux rentrer, vas-y,
escalade par là.
Ouais. Mais faut qu'on tienne ton micro.
Voilà, c'est bon.
OK, parce que alors
oui, après il y a plus qu'à descendre. Ah non, on monte pas là. Donc là, on est à l'intérieur du jardin.
On a des chemins qu'on a aménagés. Là, il y a un petit banc pour ceux qui veulent s'asseoir sous un arbre. Du platane, de l'acacia. Donc ici, il y avait un compost. Donc on mettait à disposition des graines, du terreau, du compostage, des bâches, enfin des outils. Voilà, donc là, du purin d'ortie.
Là, si tu grimpes les escaliers,
on peut monter par là
sur le potager. Ouais, vas-y, grimpe.
Tu vois la patate, là, tu vois ça, par exemple, là, ça, c'est bientôt récoltable. Voilà. Donc à l'expulsion, regarde-moi ça. Regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait ? Donc là, il y avait des arbres. Donc tu vois, ils ont déraciné ça complètement. En fait, ils ont fait une démonstration de force, quoi. Et donc, ils sont arrivés, ils ont tout retourné, quoi.
Là, tu vois un tableau qu'on a fait lors de la première fermeture du jardin. En fait, il se trouve que Louise est sortie avec une botte de radis sous le nez de la police. Et donc, il y a une photo qui est parue dans la presse. Et à partir de là, j'ai fait un dessin de cette photo.
Parce qu'on avait un slogan, on voulait sauver les bébés radis, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la première expulsion... Bon, à la deuxième, on est déjà un peu plus préparé, quoi. Mais la première expulsion, on s'est dit, mais nom de Dieu, notre potager, enfin, tout c'est... Il faut en prendre soin, c'est du travail.
Ça, c'est une révolution écologique, quoi. Tout moins une révolution avec un symbole sur les radis.
Donc les réponses de la mairie de Lyon ne sont pas claires au sujet de ce refus de voir ses habitants jardiner et fabriquer un lombricomposteur sans voir arriver des CRS. Certains parlent de projets immobiliers, d'autres de terrains dangereux. En attendant, les habitants peuvent toujours ramasser leurs carottes et leurs radis avec tous les risques que cela implique.
Merci Raphaël Mantoux pour ce reportage. Une remarque, Jean de Kervasdoué.
Non, tout ça est anecdotique. Moi, je pense qu'effectivement, l'urbanisme français devrait être revu et un peu s'inspirer de l'urbanisme allemand, où effectivement, il y a beaucoup plus d'espaces verts et éventuellement de jardins partagés dans la ville. Mais malheureusement, tout ça nous éloigne des grands problèmes de pollution qui sont liés à la pauvreté, et notamment dans les pays du Sud. À ces cités immenses qui n'ont pas d'adduction d'eau, qui n'ont pas d'égout, qui rejettent des sacs de plastique, vous savez que 80% de la population mondiale vit à moins de 30 prend 100 km des côtes et s'installe en général dans les plaines. Et en général, les plaines sont les plaines qui nourrissent. Donc, si vous voulez, bon, tout ça est un peu loin, à mon avis, des questions d'écologie. Néanmoins, au sens où moi, je l'entends, néanmoins, si vous voulez, je crois que une des raisons pour lesquelles, et pour en revenir au titre de l'émission, les Français s'éloignent des questions d'environnement, c'est qu'ils se sont aperçus qu'une série de normes imposées au nom de l'environnement étaient infondées et que ces normes, qui elles touchent, ce sont les pauvres. C'est-à-dire quand vous voyez la circulation alternée à Paris ou quand vous voyez l'aménagement de la rive gauche de la Seine, à qui ça profite? Au 7e arrondissement? C'est pas vraiment les plus déshérités de la terre. Qui est pénalisé? Les artisans et les commerçants qui viennent travailler à Paris. Et quand vous faites de la circulation alternée à Paris, ça diminue pour un jour de circulation alternée la pollution atmosphérique de 1/3 millième, c'est-à-dire zéro.
Benoît Hartmann.
Le bénéfice de l'écologie, il n'est pas local. Quand on a des démarches de l'ordre de ce qui était évoqué, il y a des bénéfices à plusieurs titres. L'écologie, ça peut se définir vraiment de plein de façons différentes. Reconnaissons aux jardins partagés, quand ils sont sauvages encore plus, une forme d'appropriation, de réappropriation d'une relation à la nature, dans des lieux qui sont très minéralisés. Effectivement, on a des citoyens qui se mobilisent et qui disent, ben écoutez, moi, mon avenir écologique, je vais le prendre en main, et puis je vais me dire, pourquoi pas un petit peu d'agriculture urbaine. Mais évidemment que cette agriculture, elle ne va pas nourrir la ville. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de rentrer de nouveau le fait naturel dans le quotidien des gens, sachant que cette génération actuelle n'a pas de grands-parents qui a été ruraux comme la mienne ou comme la précédente, donc n'a pas cette relation-là à la nature, elle est de plus en plus distanciée. Donc c'est très important, ça peut sembler anecdotique, mais en fait c'est pas anecdotique, c'est symbolique, et c'est aussi le signe sans doute de quelque chose qui change. Une réappropriation de la nature au plus près de soi, dans son quotidien.
On écoute Pérez, les vacances continuent et tout de suite après on continue à évoquer l'écologie et ses conséquences.
Thank you.
public sur France Inter, l'écologie. Aujourd'hui, on en parle avec un auditeur, avec Patrice, qui nous appelle de la Meuse. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Vous voilà,
moi, je pense que l'écologie repose sur trois pôles, et si vous le permettez, je développerai deux de ces pôles. Les trois pôles sont l'éducation, le comportement personnel et l'engagement militant et collectif. En termes d'éducation, je voulais simplement témoigner, je suis un ancien instituteur, et l'écologie a été vraiment le pilier, le central de ma pédagogie. J'ai engagé les enfants à différentes actions parce que je crois que cela passait par le concret. Et un simple exemple, nous avons planté 600 arbres avec mes différents élèves. Mmh. Ensuite, la responsabilité personnelle, chacun le sait, c'est le tri des déchets, c'est les moyens de transport, prendre son vélo si possible au lieu de la voiture. Et puis l'engagement collectif, militant, je vais prendre un exemple aussi, je crois que la plus grande difficulté pour être un écologiste, c'est le déséquilibre qu'il y a entre l'engagement écologique ou écologiste et le pouvoir politique et économique. Ce déséquilibre. Exemple, je suis allé hier à une manifestation contre le laboratoire, enfin le pseudo-laboratoire de Bure, dans la Meuse, où on va enfouir les déchets nucléaires. Alors je milite depuis une vingtaine d'années, et ce qui m'a fait encore plus bondir dernièrement, c'est voir l'influence du politique sur la justice. Exemple, ce laboratoire est géré par l'ANDRA. L'ANDRA a caché sciemment le fait qu'on pouvait avoir des sources exploitables pour l'eau chaude dans le bassin parisien. Et ça a été révélé au grand jour par les associations qui ont porté plainte devant le tribunal de Nanterre. Et figurez-vous que le tribunal de Nanterre a simplement répondu « Votre plainte n'est pas recevable parce que vous n'y avez aucun intérêt ». Comprenne qui pourra, si ce n'est à comprendre que le pouvoir politique a une influence terrible sur notre justice en France. D'où la difficulté d'être écologiste aujourd'hui.
Merci Patrice. Votre réaction, Benoît Hartmann, pour France Nature Environnement.
Alors, ce dont il est question là, c'est le centre d'enfouissement de Cigéo à Bure. Donc, enfouir des déchets nucléaires profondément dans une couche d'argile. Ce qui a été... France Nature Environnement a effectivement porté plainte, puisque le débat public n'a pas eu lieu et qu'il a été sabré. Et ce qui a été remis en question par les juges, c'est notre intérêt à agir. Or, par définition, une association comme France Nature Environnement, reconnue d'utilité publique depuis 1968, a intérêt à agir quand il s'agit de défendre l'environnement.
Effectivement, et on peut se dire également qu'il y a un grand nombre de luttes qui sont menées. Jean de Kervas-Doué, trouvez-vous que ces militants qu'on entend s'exprimer et qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Raphaël Mantoux mènent en quelque sorte l'opinion publique vers de mauvaises pistes?
Non, mais il y a un problème pour lequel je crois qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution, c'est comment s'organisent sur ces sujets les débats publics. Alors, comme vous le savez, il y a eu quelques tentatives, mais ces tentatives ont été avortées parce que sabotées par des gens qui étaient extrêmes, et je pense notamment au débat sur les nanotechnologies. En ce qui concerne, moi je ne me sens pas, je respecte votre association ou votre collectif d'associations, mais je ne me sens pas représenté par elle. Je pense que nous sommes dans une société démocratique, pour ça nous élisons des députés, des sénateurs et des maires, et que la légitimité, c'est celle-là et c'est pas celle des associations d'abord.
Denis est au standard. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Denis.
Oui, je vais rebondir un peu sur l'auditeur précédent. Ce que je vous disais, c'est que pour moi, l'écologie, en aucun cas, ça doit être une composante de sa personnalité, quelque chose qui est un phénomène de mode, quelque chose qui doit être politisé. L'écologie, pour moi, c'est partie de ce que je pourrais appeler la conscience collective, au même titre que l'altruisme, au même titre que des valeurs humaines qui nous font tendre la main vers le prochain. Pour comprendre un peu plus facilement, on pourrait faire le parallèle avec la religion, qui à la base était sûrement un outil très intéressant, très utile pour l'homme, qui l'aidait à répondre dans toutes ses questions métaphysiques, dans ses difficultés avec lui-même. Et puis petit à petit, cette religion, elle a été, on va dire, humanisée, elle a été récupérée par certains hommes. Alors on sait à ce jour que ça peut aller très très loin, ça peut aller dans l'extrémisme, puisque forcément pour créer une identité forte, on va aller vers les extrêmes pour contraster avec ce qui est plus normal. Et l'écologie, pour moi, c'est pareil, que ça soit dans un sens avec les tout verts, plus verts que verts, et puis tous ces scientifiques qui sont si sûrs, qui croient dans la puissance de la science et dans le pouvoir de dompter la nature. Je crois qu'à ce jour, c'est clair et net que la ligne, elle est bien au milieu. Voilà, on peut pas empêcher l'homme de croire en des divinités et de diriger sa vie. Je pense que c'est plutôt positif quand c'est bien fait. Et là, c'est la même chose avec l'écologie. L'écologie, c'est de la conscience collective et ça doit concerner tout le monde. Voilà. Je ne peux pas débattre trop longtemps, vous prendre à l'antenne, mais je pense que l'idée à retenir, c'est ça. C'est surtout que c'est de la conscience collective au même titre que l'altruisme et que nous devons tous en faire preuve. Voilà.
Merci.
Et un peu choqué par le fait de dire que certains exagèrent l'écologie. C'est comme si je disais que, par exemple, pour le terrorisme, le terrorisme fait moins de morts que les accidents d'avion, par exemple. Je trouve ça un peu odieux de dire ça. Ça reste quelque chose qu'on peut supprimer et que l'homme a créé.
Voilà. Merci beaucoup, Denis, pour cette remarque. Guillaume Goubert, vous qui êtes directeur du quotidien La Croix, vous avez donc mené une étude sur les relations que les chrétiens entretiennent avec le sentiment écologique par rapport à ce que Denis vient de dire, votre réaction?
C'est, de toute façon, toutes les formes d'extrémisme, qu'il s'agisse de religion ou qu'il s'agisse d'écologie, doivent être combattues. Moi, une des choses, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jeanne Carvaz-Doué, qui je trouve très préoccupante aujourd'hui en France, c'est la difficulté qu'on a à engager de véritables débats et à se mettre d'accord au moins sur un diagnostic, sans même parler de définir des solutions. Souvent, on a beaucoup de mal à déjà être d'accord sur la nature du problème. Et ça vaut dans le domaine de l'environnement comme ça vaut dans beaucoup d'autres domaines, le chômage par exemple. Et effectivement, moi j'avais été très choqué de constater que le débat sur les nanotechnologies avait été littéralement saboté par des personnes qui sont violemment contre les nanotechnologies, ce que je peux très bien comprendre parce que c'est un domaine préoccupant, mais au point de refuser qu'il y ait un débat sur le sujet, ça je n'arrive pas à le comprendre.
Alors,
pour
ce qui est de France Nature Environnement, nous sommes une fédération légaliste, donc nous refusons de s'aborder des débats. En revanche, je comprends que ça puisse arriver. Regardons un événement très récent. Sivens, la mort de Rémi Fraisse. Que s'est-il passé? Il y a des outils pour prendre l'opinion, c'est-à-dire des outils qu'on a inventés. On a demandé un certain nombre de rapports de l'ONEMA qui s'occupe de l'eau, rapports de l'organisme qui s'occupe de la biodiversité. Trois rapports prennent l'opinion et rendent des avis négatifs. Une enquête publique rend un avis négatif où la population dit non, et malgré ça, il y a un passage en force. On comprend qu'il y ait une forme d'envie de s'aborder le débat ou même de ZAD, d'aller occuper des terrains illégalement, si on a l'impression qu'on n'est pas entendu, alors malheureusement, ces oppositions qui sont malheureusement souvent violentes, que nous condamnons au premier titre parce que nous sommes non-violents, quel que soit le côté d'où est exercée la violence, y compris quand elle est exercée par les gendarmes, pour être très clair, mais si on en arrive à ça, c'est sans doute parce qu'il y a une rupture de ce dialogue. S'il n'y a plus de dialogue, alors malheureusement, la violence est l'enfant naturel de la rupture de ce dialogue. Nous demandons que ce dialogue démocratique se réinstaure, c'est-à-dire faire la vraie place aux citoyens et ne pas prendre sa parole comme quantité négligeable quand ça ne dit pas ce que le politique voudrait que ça dise.
Jean de Kervas-Doué, cette émission touche à sa fin. Si vous deviez aujourd'hui résumer votre sentiment par rapport au débat relatif à l'écologie, que diriez-vous? Que diriez-vous à nos auditeurs?
Que c'est un débat essentiel, que la relation de l'homme et de la nature est au centre de la vie en société, mais que ce débat est capté par un parti politique derrière lequel se cachent des idées qui sont en partie infondées et qui est peut-être avant tout un parti libertaire et surtout...
Pourquoi libertaire ?
C'est-à-dire que vous voyez bien que l'écologie politique en France a joué un rôle dans toute l'évolution des débats sur... c'est pas que je sois contre, hein, mais sur le mariage pour tous, etc. Mais je voudrais terminer sur l'écologie.
De mélange, parce que...
Non, mais de fait, il se trouve que dans l'évolution des idées en France, il y a eu cette association très particulière. Mais, encore une fois, je ne reconnais pas l'écologie politique une compétence scientifique. Elle est d'une autre nature.
Merci beaucoup Guillaume Goubert. On retrouve dans le quotidien La Croix cette étude.
Oui, qui se poursuit toute cette semaine et puis le 18 juin, la parution de l'encyclique du pape auquel nous consacrerons beaucoup de place.
Donc une encyclique où il sera question de l'écologie et du lien entre l'Église catholique et l'écologie. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean de Kervas-Doué, « Ils ont perdu la raison ». un livre aux éditions Robert Laffont où vous essayez de montrer dans quelle mesure les débats sur le diesel, le nucléaire, les pesticides ont été en quelque sorte biaisés. Vous retrouvez Nagui tout de suite après le flash. Ah mais il est là, Nagui.
Bonjour, Nagui. Mais je peux, en même temps, on peut aussi après le flash. Hein,
c'est dites-nous. Après le flash,
très rapidement, nous recevons Marc Duguin qui eut été président, je crois que c'est en 2009, du prix du livre Inter. Et justement, les jurés ainsi que ce livre Inter sera également un sujet en plus du livre de Marc Duguin qui s'appelle Quinquennat. Voilà, vous savez tout, ou presque, si je me suis pas bien exprimé. On se retrouve après le flash.
Vous êtes très bien exprimé. On se retrouve tout de suite après le flash, Nagui.
Merci.